Bonsoir.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de la radio du lycée Chateaubriand de Rome, présentée par des élèves de seconde et du CBL.
Quand on pense numérique à l'école, on pense tout de suite tablette, smartphone, PC. Mais aujourd'hui, leur usage ne concerne pas seulement les élèves. Et oui, les professeurs aussi se modernisent.
La technologie change les habitudes et peut améliorer ou dégrader les situations. Les changements, qu'ils dérangent ou qu'ils réjouissent, sont bel et bien là. Nous avons décidé de présenter une véritable révolution dans le monde de l'éducation. En effet, à l'occasion de la première journée d'épreuve du baccalauréat, nous nous intéresserons à la dématérialisation de la correction des copies. Exactement que la dématérialisation de la correction du bac. Écoutons la chronique de Claire.
Donc, le système traditionnel de correction des copies du baccalauréat est un circuit bien rodé. Un centre d'examen s'occupe de la répartition des copies et les attribue aux professeurs chargés de leur correction. Chacun d'entre eux, stylo en main, corrige et évalue entre 60 et 160 copies. C'est ensuite en réunion d'harmonisation que les notes sont définitives. Depuis 2011, l'AEFE, Agence pour l'enseignement français à l'étranger, teste un nouveau dispositif, la correction numérique via une plateforme nommée Viatic. Cette année, cette innovation s'étend à tous les établissements du réseau AEFE. Toutes les copies sont scannées et les professeurs auxquels sont attribués se connectent sur la plateforme pour les corriger, non plus stylo en main, mais à partir de leur clavier et d'une souris. Outre un intérêt financier, la dématérialisation de la correction des copies facilite l'harmonisation de la notation. Les correcteurs d'une même épreuve peuvent communiquer entre eux, s'envoyer des copies et des commentaires. Le système s'étendra-t-il à tout le territoire français? Des expérimentations doivent être conduites pour en mesurer l'intérêt. Les problématiques à l'étranger, transport, sécurisation des copies et déplacement des correcteurs ne sont pas les mêmes que sur le territoire. Cela dit, la presse française s'intéresse de très près à cette dématérialisation. Présente dans les murs du lycée Chateaubriand aujourd'hui, elle réalise un reportage sur ce sujet.
Mais en fait, est-ce que les élèves savent ce que c'est la dématérialisation? En tout cas, nous allons le savoir parce que nos journalistes sont allés dans la cour interroger les élèves.
Et la décomposition de la matière?
C'est quand on détruit quelque chose.
Selon moi, la dématérialisation des copies du bac n'est pas forcément une bonne chose parce que ça peut mettre en désavantage les élèves de cette génération et des générations suivantes parce que les professeurs ne vont pas forcément corriger de la même façon.
Selon moi, c'est pas une bonne idée parce que quand même les copies doivent être corrigées originellement. C'est pas logique si déjà on perd des feuilles, même écologiquement, si on utilise des feuilles. Si on va écrire sur des feuilles, après ça sert à quoi si on va juste les scanneriser? À ce point, on prend un ordi, on fait le bac sur un ordi. Ça n'a pas de sens.
Je pense que c'est une bonne innovation parce que c'est très pratique. Faire déplacer les professeurs coûte beaucoup d'argent et donc ce serait avantageux du point de vue économique. Et je pense aussi que ça ne change pas trop dans la façon dont ils corrigent. Genre que ce soit sur papier ou sur ordinateur, de toute façon l'important c'est qu'ils arrivent à corriger.
Et merci aux élèves d'être bienvenus nous accorder un peu de leur temps.
Oui, Vittorio, maintenant que nous avons pu entendre leur avis, écoutons celui de Madame Coronas, coordinatrice régionale pour les examens et interlocutrice fondamentale pour le lycée romain autant que pour l'AEF.
Bonjour Madame Coronas, vous êtes donc coordinatrice régionale de la correction dématérialisée des copies de baccalauréat. Expliquez-nous un peu en quoi cela consiste.
Bonjour, alors en quoi ça consiste? Il y a plusieurs phases bien sûr, la dématérialisation, donc c'est avant tout, comme vous l'avez annoncé, une révolution, hein, parce que en étant gestionnaire, je veux vous dire que mon travail de préparation du baccalauréat a débuté bien longtemps avant le début des épreuves. Alors que là, avec cette nouvelle procédure, donc on peut effectivement partir de cette base viatique, voir déjà la mise en place et la mise en salle des élèves, éditer des fiches d'émargement au préalable, je fabriquais toute seule, et répartir donc les élèves dans les salles. Donc, à la fin des épreuves, donc, c'est important de souligner le fait que la dématérialisation pour les élèves n'a aucun changement, donc l'élève continue à composer sur une feuille de composition, bien sûr. C'est ensuite au niveau de l'envoi au correcteur que le système change. Donc toutes les copies sont effectivement numérisées et elles partent sur un serveur sécurisé. Bien sûr, elles partent d'une façon cryptée sur le serveur numérisé. Et ensuite, le rectorat peut attribuer ces copies au correcteur. Ce qu'il faut également souligner, c'est que les copies, quand elles partent vers le serveur numérisé, vers le serveur sécurisé, pardon, elles sont automatiquement anonymées. Donc, un candidat équivaut à un numéro.
Et quelles ont été les réactions des enseignants ?
La réaction des enseignants, dans le global, très positive, effectivement, parce que c'est un instrument ludique qui est effectivement à jour avec ce qui nous est proposé par tous les systèmes numériques. Donc, l'accueil que les enseignants ont pu faire a été très positif. Et c'est sûr qu'au départ, il y a eu un peu de perplexité sur le fait de la correction de copies face à un écran, que ça pouvait éventuellement causer de la fatigue supplémentaire. Mais la résolution et la restitution qui est faite des copies permet une correction tout à fait normale et la plupart des enseignants en prennent plaisir, surtout pour ensuite les aspects secondaires, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas seulement la correction, mais c'est ensuite toute la phase qu'il y a à côté de la correction, donc c'est-à-dire le fait d'optimiser la correction avec les avis des autres correcteurs, de voir les moyennes qui sont attribuées sur les copies, de pouvoir échanger avec d'autres collègues, donc tous ces aspects font que la correction sur viatique soit accueillie d'une façon positive.
Et est-ce que ces professeurs ont donc suivi une formation pour utiliser cet outil ?
Bien sûr, tous les interlocuteurs qui utilisent Néoptec ont reçu une formation organisée par la société Néoptec et l'AEFE, bien sûr. Donc tous, enseignants, gestionnaires, rectorats, ont tous eu une formation sur ce système très, très innovant. Mais je dois dire, la formation ne dure pas beaucoup de temps parce que c'est très, très, très simple d'utiliser ce système. Donc, il est vraiment accessible aux personnes qui ont même les moindres connaissances en informatique.
Et donc, quel bilan pourront-nous tirer de cette nouvelle expérience ?
Le bilan est positif. Donc, moi, je parle d'un point de vue d'abord de gestionnaire. Donc, pour moi, ça a été vraiment une révolution, donc dans un gain de temps et de travail incroyable. Pour les enseignants, je ne vais pas m'avancer, je pense qu'ils le diront eux-mêmes, mais c'est tout à fait positif aussi. Et pour les familles également, parce que ce dispositif touche plusieurs domaines, plusieurs aspects, et que des côtés positifs.
Merci beaucoup pour votre intervention.
Ah, merci à vous.
Ces correcteurs 2.0 du nouveau système.
Écoutons l'interview menée par Philippe.
Bonjour Monsieur Bédouin, bonjour Monsieur Gutiérrez.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur d'anglais. Quand avez-vous expérimenté pour la première fois le système de correction dématérialisé ?
On a commencé l'année dernière, c'était la première expérience, donc session 2015.
Merci. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette nouvelle session de correction du bac ?
Moi, je pense qu'on peut dire qu'on est dans un état d'esprit serein, justement parce qu'on a déjà pu expérimenter cette manière de corriger, on a déjà pu s'y faire. Donc, d'une certaine manière, on commence déjà un peu à avoir l'habitude, même si, évidemment, ce n'est que la deuxième année qu'on procède ainsi.
Bien sûr. Donc, vous dites que vous l'avez déjà expérimenté, mais préférez-vous le système plutôt traditionnel qu'il y avait avant ou ce nouveau système?
Ben, entre corriger sur papier et corriger sur écran, si on ne fatigue pas au niveau des yeux, et ça peut être un problème quand même, moi, personnellement, je préfère la version dématérialisée. Mais bon, quand même, j'ai des petits doutes, il faut voir sur une grosse quantité de copies, est-ce qu'on fatigue au niveau des yeux, ça peut... on va.
Merci. Et l'année dernière, ce système a-t-il modifié votre approche de correction de copies?
Oui, dans une certaine mesure, ça a un peu changé la manière dont on approche les copies. En effet, on a accès à un certain nombre de statistiques qui nous permettent potentiellement d'être un peu plus objectifs. Encore, on peut également plus facilement, si on a un doute, rentrer en contact avec d'autres correcteurs afin, par exemple, de pouvoir discuter d'une copie. On ne serait pas forcément certain de la manière dont on peut le corriger. Donc c'est vrai que c'est une approche qui est un peu différente, ça nous a permis de ce point de vue-là d'évoluer.
Puis il y a des petits gadgets, alors Madame Coronas tout à l'heure a parlé d'un logiciel un peu ludique, alors je ne sais pas si c'est vraiment ludique, parce que bon, on ne fait pas ça pour s'amuser, mais en même temps c'est vrai qu'il y a pas mal de petites fonctionnalités qui sont agréables, on peut surligner, raturer, mettre ses commentaires partout et puis les enlever après, il ne reste pas, donc c'est assez visuel, c'est assez compliqué.
Où corrigez-vous ces copies donc numérisées?
Alors moi je ne sais pas où M. Gutiérrez corrige ses copies, mais moi ce que j'aime bien c'est pouvoir changer, être pas coincé à une table. Et vous savez quand vous avez des feuilles, il faut étaler toutes les feuilles comme ça. On ne peut pas trop étaler ses feuilles sur son lit ou à la plage, ça ne marche pas, on a déjà essayé. Par contre, avec l'ordinateur, on peut passer, on va se faire un petit café à la cuisine, après on va se mettre sur le canapé, tranquille, on peut corriger en pyjama, tout ça. Ça, c'est vraiment très pratique.
Pas mieux, c'est tout à fait ça. Je pense que M. Bédo a tout à fait deviné.
Mais je crois qu'il faut être honnête quand même et se rappeler qu'avant la dématérialisation, on allait corriger les copies qui à Athènes, qui à Istanbul. Et entre Istanbul et ma cuisine, je préfère quand même Istanbul.
Mais je peux.
Bien sûr. Et maintenant, est-ce que vous pensez que la correction est plus longue qu'avant ou pas vraiment?
Monsieur Gutiérrez va sûrement dire que c'est plus rapide parce qu'il est un peu geek.
Oui, clairement, et en plus parce qu'il a beaucoup plus l'habitude de taper sur un ordinateur maintenant que d'écrire. Effectivement, pour moi, c'est nettement plus rapide, mais je ne suis pas certain que ce soit général.
Bon, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une différence énorme. Je dirais peut-être un peu plus rapide également.
Merci beaucoup pour cette intéressante interview.
Merci.
Et bien maintenant, Vittorio, je propose une petite surprise musicale de notre DJ en herbe, Loïc Gadji. À toi. Thank you.
spéciaux. Carmine va se charger de questionner.
Bonsoir mesdames, Louise Souret et Sonia Moran. Vous êtes journaliste à France Culture et France Inter. Vous êtes venu de Paris jusqu'à Rome pour effectuer un reportage sur la dématérialisation. Pourquoi avoir choisi le lycée Chateaubriand et comment avez-vous organisé votre enquête?
Alors, c'est pas nous qui avons choisi, c'est la EFE qui nous a proposé de venir ici, sûrement parce que c'est un lycée où ça se passe bien. J'imagine que vous faites partie des meilleurs exemples du réseau. En plus, Rome, c'est pas si loin de Paris, donc c'est assez pratique. J'ajoute que nous avons été invités, donc ce sont des conditions de reportage un petit peu spéciales, invités par la EFE. Mais ce sujet nous intéressait, hein. C'est pour ça que nous sommes venus, parce que c'est une innovation qui pourrait généraliser et puis qui a un caractère quand même un petit peu étonnant si on se rappelle les conditions dans lesquelles on passe le bac aujourd'hui et comment on va passer nous, Sonia.
Oui, effectivement, alors c'est une proposition qu'on nous a faite pour venir ici faire ce reportage. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un sujet sur le bac, parce que chaque année, on est à la recherche de sujets un peu innovants sur le bac, et là, les épreuves écrites vont commencer en France le 15 juin. Donc ça nous permet de faire un sujet un peu original sur le baccalauréat. Quoi.
J'ajoute quelque chose, puisque vous êtes apprenti journaliste, vous savez peut-être déjà ce que c'est qu'un marronnier. Mais un marronnier, c'est un sujet qui revient tous les ans, à la même saison, et dont on est obligé de reparler. Donc on se creuse la tête, nous les journalistes. Alors en éducation, il y a le bac et la rentrée. C'est imparable, et souvent, les reportages d'année en année peuvent se ressembler. Mais dans le service public de la radio, on essaye de faire mieux que les autres. Donc on est très, très innovant.
On se creuse la tête.
D'accord, bah, je vous remercie.
On est un peu aidé.
Je vous remercie pour ce mot, je ne connaissais pas, donc ça a été une occasion, une espèce de perle, hein,
voilà, si j'ai bien compris.
Et donc initialement, est-ce que ce sujet vous a tout de suite parlé? Est-ce que ça a été difficile de trouver des questions, enfin de savoir comment parler de ce sujet?
Non, c'est très intéressant parce que ça n'existe pas en France, ça ne se fait pas. Donc du coup, c'est quand même quelque chose, je pense, qui va venir dans les prochaines années, donc on sera amené à en reparler. Donc c'est intéressant de voir comment ça se passe concrètement, d'expliquer à nos auditeurs ce que ça peut apporter. Et voilà, c'est un sujet qui leur parlera plus tard, mais en tout cas c'est intéressant de le faire maintenant.
Non, mais
non, j'ajoute que les questions qui ont été posées par les journalistes qui nous ont précédés ont été très pertinentes. On pourra en ajouter d'autres. Enfin, moi, j'ai plein de questions sur la société informatique qui gère les copies. On les confie à des entrepreneurs privés. Je pense qu'en France, par exemple, ça posera des questions.
D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une méthode qui casse un peu avec les traditions, surtout que les gens connaissent en France. Mais est-ce que vous pensez que c'est... Vous avez dit que vous pensez que ça arrivera bientôt en France, peut-être, mais est-ce que vous pensez que ce sera très prochainement ou plutôt dans un certain temps?
Alors là, pour l'instant, inutile de le dire pour l'instant. C'est vrai que le problème en France, c'est que ça a une beaucoup plus grande échelle, donc ça va poser sans doute des soucis d'organisation malgré tout. Donc on peut se dire que ça va mettre un petit temps quand même à se mettre en place, le temps que tout le monde soit d'accord, que les professeurs aussi acceptent de faire ce changement, parce que c'est quand même un changement assez important dans les pratiques, mais voilà.
D'accord. Mais c'est vrai quand même que c'est une méthode qui a eu origine dans l'AEFE parce que c'était vraiment propre à ça.
J'aurais une petite question liée à l'actualité. Est-ce que ça vous fait du bien de fuir Paris en ce moment?
Pour parler comme un élève, niveau climatique, c'est pas mal. Donc nous sortons d'une ville où il pleut depuis des semaines et la Seine, comme vous le savez, est très haute. C'est assez impressionnant, mais c'est assez beau aussi. C'est vrai que le soleil romain, ça fait beaucoup de bien.
Ouais. On recharge nos batteries, ça nous fait du bien.
D'accord. Merci beaucoup. Et vous qui avez assisté à notre émission en tant que professionnel de ce milieu, qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette émission qu'on a faite?
Moi, je trouve ça très bien. D'abord, je pense que c'est très bien pour les élèves de travailler l'oral avec des micros. Alors, j'ai l'impression que les micros sont réglés un peu fort, on s'entend un petit peu respirer.
Oui.
Donc, c'est un petit souci technique,
mais détail technique
à la qualité des micros. Sinon, j'ai l'impression que la formation du lycée français et la formation à l'oral vous aident. Après, on n'a pas vu tous les élèves, hein, donc on ne sait pas si ça concerne tout le monde, mais ouais, vous débrouillez bien.
Et puis, les questions étaient pertinentes, les questions étaient intéressantes, et vous arriviez à bien, tout s'enchaînait bien, il n'y a pas eu trop de blanc, c'est bien, ça nous a plu en tout cas.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
En tout cas, c'est très flatteur d'avoir des compliments de professionnels du milieu. Et justement, parlons-en un peu plus de cette fameuse web radio de Château avec Monsieur Onis, notre CPE, qui sera suivi par une interview téléphonique de Slimane Zeguido, un journaliste à Télé 5 Monde. Bonjour, bonsoir Monsieur Onis.
Bonsoir.
Comment est née la web radio à Châteaubriand ?
Alors, la web radio, elle est née déjà du fait que nous avons un premier média, un journal au lycée, qui marche très bien, qui est totalement pris en main par les élèves, complètement organisé de A à Z par les élèves. On a des directrices, un graphiste, une équipe de journalistes rédacteurs, des bénévoles qui aident à la réalisation, à la relecture, à l'impression, à la diffusion du journal. Et ce journal est une vraie réussite. On en édite 400 numéros à chaque fois et il y a 7 à 8 numéros par an. Voilà. Donc on avait ce premier média qui marche bien et on avait envie de mettre sur pied un autre média qui soit différent de l'écriture ou de l'image, pour porter encore une fois la parole des élèves. Voilà. On voulait que nos élèves puissent s'approprier un autre média et faire aussi une critique des médias. Voilà. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de demander cette formation pour monter cette web radio.
D'accord, comme c'est un média assez nouveau à Châteaubriand, on voudrait savoir quelles sont les finalités, les objectifs de ce média à Châteaubriand, de la radio à Châteaubriand.
Alors, une web radio scolaire, ça, forcément, il y a derrière plusieurs finalités, plusieurs objectifs, pédagogiques, mais pas seulement. On a évidemment le travail de l'expression écrite et orale des élèves, puisque à la radio, vous le savez bien maintenant, tout s'écrit, et donc il y a un travail de rédaction important qui doit être fait en amont. Il y a évidemment aussi un travail de diction, hein, sur lequel on s'exerce, et qui est intéressant. Il y a un autre objectif derrière, une autre finalité, c'est la formation à l'éthique journalistique. Et donc, on essaie de faire en sorte d'aiguiser l'esprit critique de nos élèves et le sens du débat. Les élèves, généralement, adorent débattre, mais encore faut-il avoir une méthodologie du débat. D'autres objectifs, je l'ai rappelé, hein, donner la parole aux élèves. Faire en sorte que les élèves puissent avoir un espace, un nouveau moyen d'expression et qu'ils puissent s'exprimer au sein de la communauté Châteaubriand, leurs envies, leurs besoins, ce qui les préoccupe et ce qui les passionne. Voilà. D'autres finalités très importantes, l'apprentissage des règles du jeu démocratique, car on fait place au sein de l'émission à plusieurs points de vue, plusieurs perspectives. Donc on sensibilise au pluralisme et on travaille sur la déconstruction de représentations communes. Ça a été le cas notamment au cours de l'enseignement d'exploration de Madame Fouquet, en littérature société, où les élèves ont travaillé sur la notion de cliché. Hein, quels sont les clichés que nous portons, que nous transportons, que nous véhiculons, que nous confrontons, que ce soit des Italiens face aux Français, des Français face aux Italiens, et puis de tous les autres élèves qui composent la communauté de Châteaubriand. Voilà. Enfin, il y avait encore un autre objectif, si on peut dire, c'était de mettre un coup de projecteur sur tout ce qui se fait à l'intérieur du lycée, sur tous les événements de la vie de l'établissement, et donc d'essayer de les mettre en valeur.
Voilà. D'accord, merci monsieur. En tout cas, ce live, c'est le premier grand projet de cette radio, cette toute nouvelle radio à Châteaubriand. Est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant du lancement du projet, des efforts des élèves, du travail fourni ?
Alors, je le dis très sincèrement, et je le dis au nom évidemment de tous mes collègues qui ont porté le projet avec moi, je trouve que déjà la notion qui revient à chaque fois quand on parle de la web radio, c'est le plaisir. Les élèves prennent plaisir à travailler, prennent plaisir à s'écouter, à collaborer, à proposer, à échanger, à débattre. Et ça, c'est le plus important. Le plaisir, il était partagé par nous. Il faut le savoir, c'est une énorme satisfaction pour nous de collaborer et d'être formés avec vous. Hein, ce temps de formation où nous-mêmes, nous sommes en posture d'apprenants. Et donc, on a pu échanger ensemble, et personnel et élèves. Ça crée un autre lien, un autre rapport. Et j'allais dire, il faut garder ça, il faut maintenant que cette radio elle vive, que la voix des élèves encore une fois s'exprime et que on continue à créer du lien au sein de la communauté Châteaubriand, que ce soit par le journal, que ce soit par la radio.
D'accord, merci beaucoup monsieur Onis. Justement, je propose d'écouter un journaliste international qui a justement une idée très précise de la liberté d'expression, qui est, je crois, un principe fondamental de cette toute nouvelle web radio du lycée Chateaubriand. On a recueilli son témoignage au travers d'une interview téléphonique.
Donc, bonjour, monsieur Zeidour. Quel est votre métier et pourquoi est-il intéressant de vous interviewer aujourd'hui dans le cadre de cette web radio du lycée Chateaubriand?
Alors, bonjour. Alors, je vous appelle depuis la rédaction de TV5, dans mon bureau. En principe, j'aurais dû avoir le plaisir de vous donner cette interview de vive voix aujourd'hui, dans cette ville éternelle qui est Rome. Mais malheureusement, à cause de l'actualité, j'ai été, à mon corps défendant, retenu pour mon travail. C'est ce qui fait que j'ai quand même le plaisir de répondre à vos questions en tant que journaliste, puisque figurez-vous, le lycée Chateaubriand est un lycée qui m'est très cher, parce que j'ai eu des parents qui ont étudié là-bas il y a des années de cela. Et donc j'ai eu le plaisir de le visiter. Je connais très bien son histoire, qui a plus d'un siècle maintenant. Voilà pourquoi je vous réponds avec une certaine émotion.
Mais tout cela est véritablement formidable. Donc vous êtes justement journaliste à l'international. Et probablement, vous avez parcouru des pays où la liberté d'expression n'est pas toujours évidente. Donc, est-ce que selon vous, une web radio lycéenne peut éduquer à la citoyenneté et sensibiliser les élèves justement à cette question de la liberté d'expression?
Mais bien sûr. D'abord, ça commence au lycée. Et donc, parce que le lycée, c'est l'âge de l'éveil. C'est un âge extrêmement délicat, où tous les sens de l'élève se dilatent, son ouverture au monde se précise. Il est sur un double seuil, il est sur le seuil où il doit quitter la maison de ses parents, il est au seuil de la vie active pour vivre sa vie d'adulte. Et donc c'est un moment de structuration extrêmement important. Et en ce sens, les médias, notamment les radios de lycée, peuvent être une école supplémentaire, une école dans l'école, si je puis dire, pour apprendre des qualités indispensables, d'abord pour être un honnête homme ou une honnête femme, mais aussi pour être un bon citoyen, c'est-à-dire un homme libre ou une femme libre et responsable. Et ces qualités, la presse les exige, le journaliste les exige, ce sont la clarté, la transparence, la rigueur, la précision et la probité et l'honnêteté intellectuelle.
Donc justement, vous avez parlé de toutes ces qualités que les web radios, mais en général, les journaux peuvent apporter aux jeunes lycéens. Mais est-ce que justement, vous avez des petits conseils pour les futurs journalistes, des qualités requises pour être un bon journaliste?
Alors, votre question est très intéressante parce que, figurez-vous, j'ai souvent le plaisir, au moins une fois par an, lorsque je donne des conférences dans nos instituts français, de faire un crochet, à ma demande d'ailleurs, parfois à la demande des lycéens, dans des lycées français pour avoir des discussions à bâton rompu avec des lycéens et des lycéennes. Et j'ai pu réaliser combien le métier de journaliste fascine notre jeunesse lycéenne, parce que c'est un métier un peu romantique, un peu héroïque, c'est un métier où il y a de l'adrénaline, il y a du risque, un peu de danger, il y a de l'aventure. Et effectivement, moi qui ai couvert essentiellement trois grandes régions, j'ai couvert l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et tout le pourtour méditerranéen, les Balkans, l'Égypte, mais aussi la Russie, le Caucase et l'Asie centrale. Donc je sais que c'est un métier qui fascine et matière, comme je l'ai dit tout à l'heure, des valeurs essentielles que sont le sens de l'observation, l'honnêteté dans le quand on rapporte des faits, et donc la probité. La vie est quelque chose d'extrêmement nuancé, il n'y a jamais de blanc pur et de noir pur, il n'y a pas de bon pur et de méchant pur, c'est un jeu permanent, c'est la comédie humaine avec son côté tragique, bouffon, et c'est une formidable école pour le journaliste, pour avoir l'honneur de transmettre des faits de la réalité et de mériter la confiance de ceux qui le regardent, l'écoutent ou le lisent.
Merci vraiment pour vos précieux conseils et je vous salue en vous remerciant encore.
Et moi, permettez-moi de vous féliciter, je trouve que vous avez, dans le timbre de la voix, vous posez la voix, déjà il y a une journaliste en herbe. Vous pouvez continuer, vous êtes sur la bonne voie.
Merci, au revoir.
Je suis revenue à l'antenne parce que moi je voulais vous poser une autre question. J'ai bien aimé tout ce que j'ai entendu et cette interview de mon confrère de TV5. Mais vous couvrez l'actualité du lycée, on l'a entendu, d'une manière assez sérieuse et vous vous projetez dans le métier de journaliste d'une manière assez sérieuse, mais vous savez comme moi, la radio, je ne sais pas si quelle radio vous écoutez chez vous, c'est aussi un média de spontanéité. Il y a aussi d'autres formes de journalisme qui peuvent être assez amusantes, du journalisme culturel, même si c'est aussi sérieux. Est-ce que vous faites des émissions où vous parlez de vous, de vos goûts, de lycéens, de ce que vous faites vous en tant qu'adolescent?
Alors, je pense pas. Comme il y a beaucoup de radios, je pense que vous entendez notamment par exemple des radios très connues comme Énergie, qui ont. Qui ont des thèmes très jeunes, très vifs, et puis beaucoup plus modernes, et ils sont très spontanés parce qu'ils n'ont pas de texte, hein, tout est déclamé sur le moment. Mais alors ça c'est le premier live qu'on fait, mais il y a eu deux émissions qui ont été préparées précédemment. Il y a eu notamment tout d'abord un projet qui a été fait avec la classe toujours de seconde de littérature et société, donc un projet qui a été organisée avec Madame Fouquet, une professeure de français, sur le regard sur l'autre. Donc c'était très très intéressant parce que ça portait surtout sur la façon dont on voyait les autres, les clichés qu'on a posés sur les autres, qu'on accrochait aux gens, les stéréotypes, tout ça, que ce soit par rapport à la nationalité, la culture, la religion, ce genre de choses. Et on analysait ça, on parlait des avantages, des méfaits, des origines de tout ça. Puis il y a eu une autre émission, toutes ces deux émissions ne sont pas encore sorties. Hein. La deuxième émission, c'était une émission qui a pris son origine dans l'accompagnement personnalisé. Et donc il y avait un projet avec M. Vénès, qui est professeur de philosophie, qui lui portait sur les talents au lycée Châteaubriand. Donc c'était vraiment une mise en lumière de personnes qui étaient très talentueuses à Châteaubriand. On a notamment interviewé notre DJ Loïc, mais aussi deux jeunes filles qui ont participé à un concours international avec l'AEFE, encore une fois, pour ambassadeur en herbe. Et bon, j'ai été interrogée aussi, mais une émission. C'était une émission très intéressante parce que c'était vraiment une mise en lumière d'élèves de Châteaubriand, précisément, de façon vraiment à les mettre en valeur, eux, cette fois-ci.
Et on se posait la question avec ma collègue Sonia. Vous mettez combien de temps à préparer une émission telle que celle-ci?
Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est notre premier live, donc ça a été assez très compliqué. Et c'était vraiment très laborieux. On a mis une journée entière, donc on a commencé ce matin aux environs de 10h, Victorio.
Oui, plus ou moins 10h.
Voilà, et puis on a.
C'est quand même.
10h, 9h, enfin. On a commencé à réfléchir au thème. Et puis l'écriture a été. Le début, quand on a vraiment dû commencer à faire l'ébauche, à commencer à travailler, c'était l'édito, donc. Hein, et ça a été assez laborieux avec Victoria.
Bien sûr.
C'était très laborieux. Et puis après, le reste, ça s'est enchaîné assez facilement. On a eu notamment l'aide de nos professeurs qui a été vraiment très très utile. Et voilà, sans qui on n'aurait pas pu faire cette émission.
Et de Gérard. L'aide de Gérard a été très important.
Oui.
Bon, cette émission touche à sa fin et merci Hermine.
Merci à toi Vittorio et nous remercions énormément l'équipe qui a travaillé sur ce projet, à la technique aujourd'hui Leonardo et Loïc, notre DJ, notre éditeur et la conseillère, merci à moi, Filippo, Viola, Alice, le personnel pédagogique qui nous a encadrés, Madame Fouquet, Madame Léon, Monsieur Le Ménez, Monsieur Bédouin, Monsieur Gutiérrez et Monsieur Ulis, le CPE.
Un grand merci à Monsieur Polak.
Et nous remercions bien sûr les journalistes de Radio France et TV5 Monde pour leur intervention. Rien n'aurait été possible sans la direction du lycée Chateaubriand, Monsieur Justin Proviseur, et son adjoint, Monsieur Colombille. Rien n'aurait non plus été possible sans le support de l'AFO et son service de communication et de pédagogie.
Arrivederci.
Thank you. détermine demain vos années
le montage qu'on va faire justement avec un
chapeau. Demain, le montage de notre émission.